Bonjour, Éric Godichaud, à Bâton Rompu, sur Radio Grand Ciel. Bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, après l'eau et la terre, le feu, une émission qui, j'espère, vous enflammera. Permettez-moi de préciser que le feu, surnommé la foudre et les volcans, est, contrairement aux autres éléments que l'on trouve à l'état naturel, le résultat d'une fabrication. L'eau existe sans nous, la terre aussi, mais le feu, la fabrication du feu, fut une invention extraordinaire qui, par un retour de flamme, fit sortir l'homme de la nature naturante.
Ces instants fragiles sont emplis d'espoir. Même si j'étais la cible et la proie sans coup bas qui m'éloigne trop de moi. La perfection pure n'a souvent pas de prix. La recherche me détruit. Puis je reviens à la vie. Vois tout au fond de moi ce brasier qui ne s'éteint pas. Que vive la flamme pour à nouveau prendre feu et brûler jusqu'au bout. À nouveau prendre feu et brûler jusqu'au bout. L'espoir, s'accrocher à des détails, l'espoir. Si la vie se charge de me refaire tomber, sans personne à mes côtés. Solitude me déprave. Tu sais, même les épaves sont de la trempe des braves. Vois tout au fond de moi ce brasier qui ne sait.
Les Grecs, pour montrer l'importance de cette maîtrise du feu, inventèrent le mythe de Prométhée. Prométhée vole le feu aux dieux pour l'offrir aux hommes. Ce dernier acquit cet usage du feu et de la métallurgie grâce à Athéna en personne. Le feu est un dolos, une ruse, un piège dirigé au départ contre Zeus, lequel s'y laisse prendre, mais se retourne le cas échéant contre les hommes, dit Jean-Pierre Vernant. Le mythe marque donc très nettement que l'homme, en domestiquant le feu, dont les flammes crépites sont en mouvement comme un animal insatiable qui, s'il n'était pas apprivoisé, borné par le foyer, pourrait tout dévorer sur son passage, l'homme devient donc propriétaire à son tour d'un secret. Et grâce à la trahison de Prométhée, un égal des dieux. Aussi Prométhée est-il puni, attaché à un rocher, soumis à la torture sans fin d'un aigle, lui mangeant le foie qui se reconstitue au fur et à mesure à coups de bec. Mais écoutons Gaston Bachelard nous parler de cet élément dynamique à la radio-télévision française. On y retrouvera Balzac, non en pantoufles, mais en train de tisonner devant l'âtre, en train de rêver.
Pour le feu comme pour l'eau, on peut d'abord faire état d'un accord unanime sur la poésie naturelle du feu. Avec le spectacle du feu, nous recevons une poésie exubérante, une poésie native, à laquelle aucune âme ne reste indifférente. Faut-il rappeler la rêverie devant la cheminée? Mais cette rêverie, à la fois si commune et si variée, il peut sembler qu'elle ne s'enchante que des couleurs éclatantes du feu, que de la vie de la flamme, que de la voix des bûches qui flambent. Et, en effet, on trouverait d'innombrables poèmes où s'exalte cette poésie de la flamme. Mais il faut prouver, je veux prouver, que la poésie du feu reste superficielle si elle se borne à être descriptive et brillante. La valeur d'élémentarité d'une image poétique apparaîtra mieux si l'on prend une mesure de sa puissance en métaphore. Dans cette maîtrise des métaphores, le feu est roi et le poète est tout de suite l'incarnation de cette royauté. Voyons par exemple un grand rêveur en train de tisonner. Voyons Balzac passer devant son foyer de la rêverie nonchalante à la rêverie active. On pourra lire une belle page dans la courte nouvelle intitulée « Études de femmes ». Rastignac, le héros de Balzac, écoute la voix des bûches. Et puis, il excite du tison la bataille des flammes. Et la méditation devant la cheminée se termine par cette phrase qui peut être donnée comme une maxime de la poésie des éléments matériels. C'est Balzac qui parle. « Oh, tisonner, quand on aime, n'est-ce pas développer matériellement sa pensée ? Comment mieux dire que tout ce qui brille, que tout ce qui s'excite, que tout ce qui se consume sous le coup de tison est une histoire de l'amour matériellement racontée ? Ce seul mot « matériellement » qui vient sous la plume de Balzac est le témoignage de la forte inscription des rêveries dans un cycle d'images aux profondes racines.
Quand je parle du feu à mes élèves, de la découverte et de la fabrication du feu à la préhistoire, je relève une multiplicité de fonctions qui changèrent la vie des hommes. D'abord, le feu sert à se réchauffer. Le feu réchauffe l'ambiance. On peut se réunir autour du foyer et raconter la dernière chasse. Ah, tu sais, hier, l'auroch, là... Ah, c'était extraordinaire comment on l'a coincé au bord de la falaise. C'est le début du récit et de la littérature. Un monde dédoublé en miroir, dans le cercle formé autour du foyer. Ensuite, deuxième fonction, on quitte la nuit noire. Cette peur de la nuit qui perdure chez les petits-enfants, comme la trace d'une peur archaïque. Lorsque l'homme se trouvait au milieu d'une nature belliqueuse, dans l'obscurité la plus complète. De plus, les flammes réchauffent et font fuir les animaux. C'est un moyen de se protéger. Et enfin, on peut cuire les aliments. C'est le commencement de la cuisine, proprement dite. La notion de plaisir apparaît. La cuisson libère les sucs et les saveurs de la viande. Et qui dit plaisir, ceci dans tous les domaines, dit humanité. Le plaisir est d'abord une mise à distance d'un objet extérieur. En y prenant du plaisir, on se l'approprie. Un roman a fait du feu son sujet principal. Il s'agit de La guerre du feu de Ronny Aîné, paru en 1912, dont Jean-Jacques Haneau a tiré un film. Ce roman, qui se passe à la préhistoire récente, raconte comment une tribu, qui a perdu le feu volé, envoie deux guerriers à la reconquête du feu. Faoum leva les bras vers le soleil avec un long hurlement. Que feront les hoularmes sans le feu ? Cria-t-il. Comment vivront-ils sur la savane et la forêt ? Qui les défendra contre les ténèbres et le vent d'hiver ? Ils devront manger la chair crue et la plante amère. Ils ne réchaufferont plus leurs membres. La pointe de l'épieu demeurera molle. Le lion, la bête aux dents déchirantes, l'ours, le tigre, la grande hyène les dévoreront vivants dans la nuit. Qui ressaisira le feu ? Celui-là sera le frère de Faoum. Il aura 3 parts de chasse, 4 parts de butin. Il recevra en partage Gamla, la fille de ma sœur. Et si je meurs, il prendra le bâton de commandement. Alors Nao, fils du léopard, se leva et dit « Qu'on me donne 2 guerriers aux jambes rapides, et j'irai prendre le feu chez les fils des mammouths ou chez les dévoreurs d'hommes qui chassent au bord du double fleuve. » Enfin, du sommet d'un mamelon, caché parmi des herbes drues et secoué d'une émotion terrible, ils aperçurent le feu. Nam et Gao grelottaient. Nao demeurait immobile, les jarrets rompus et le souffle rauque. Après tant de nuits passées dans le froid, la pluie, les ténèbres, tant de luttes, la faim, la soif, l'ours, la tigresse et le lion géant, il apparaissait enfin. Le signe éblouissant des hommes. C'était sur une plaine coupée de térébintes et de sycomores, non loin d'une mare, un brasier en demi-cercle, dont les flammes s'alanguissaient autour des tisons. Cela jetait une lueur de crépuscule, qui imbibait, trempait, vivifiait la structure des choses. Des sauterelles rouges, des lucioles de rubis, d'escarboucles ou de topazes agonisaient dans la brise. Des ailes écarlates craquaient en se dilatant. Une fumerole brusque montait en spirale et s'aplatissait dans le clair de lune. Il y avait des flammes lovées comme des vipères, palpitantes comme des ondes, imprécises comme des nues. Pour moi, il existe 2 manifestations qui symbolisent, illustrent la joie. Pas le bonheur, la joie qui est plus constante, qui irrigue toute vie. Le bonheur est plus fragile, plus rare. Ces 2 épiphanies sont le tintement des cloches et un feu de bois dans la campagne. Tintement de cloches. Feu dans la campagne. Puis, mélange des 2. Passons au vertige du feu, écoutons Gaston Bachelard.
Et voici que, comme l'eau des profondeurs, le feu appelle un vertige. Il y a un vertige de feu, comme il y a un vertige de la mort dans l'eau. L'eau et le feu sont vraiment des patries de la mort. Le feu est la plus grande image, la plus complète image, de l'anéantissement. Pour ce vertige du feu, pour cet appel du bûcher, on peut en souvenir de la mort d'Empédocle dans le cratère de l'Etna retenir la désignation d'un complexe d'Empédocle. Un gros dossier d'images littéraires pourrait ici être exploité. Ne donnons qu'une page de Georges Sand où l'exaltation de la mort dans les flammes est un clair exemple de l'imagination dépassant les images premières. sollicité par le démon du volcan, le rêveur qu'est Georges Sand, se donne près du sacrifice, et il répond, me voici, enveloppe-moi dans tes bras de feu, comme un amant presse sa fiancée. J'ai mis le manteau rouge, je me suis paré de tes couleurs, revêt aussi ta brûlante robe de pourpre. Couvre tes flammes de ces prises éclatants. Etna, viens, brise tes portes de basalte. Vomis le bitume et le soufre. Vomis la pierre, le métal et le feu. Et j'interprète, comment mieux dire que le rêveur de la mort dans la flamme, mais d'un rêve cosmique, un rêve d'univers. Tout l'univers doit être mis en œuvre pour son total anéantissement. D'ailleurs, dans le sein du feu vivant, la mort est-elle la mort? Et le texte de Georges Sand continue. La mort ne saurait être dans cette région éthérée où tu me transportes. Mon corps fragile peut être consumé par le feu. Mon âme doit s'unir à ces éléments subtils dont tu es composé. Eh bien, dit l'esprit du volcan, en jetant sur le rêveur une partie de son manteau rouge, dis adieu à la vie des âmes et suis-moi dans celle des fantômes.
Pendant longtemps, les machines de l'ère industrielle fonctionnaient grâce à la vapeur. Il fallait entretenir la chaudière comme le métallurgiste, doit contrôler son feu, le potier, l'alchimiste, au cœur de la tanneur afin d'œuvrer à la transformation de la matière. Le feu, comme tous les éléments, est par définition ambivalent, propice à toutes les transmutations, les transformations, les changements d'état, mais aussi brûle, détruit. C'est son côté noir destructeur. Comment ne pas penser aux bûchers dans lesquels meurent les héroïnes comme Jeanne d'Arc ou Brunhilde, aussi aux sorcières, aux hérétiques pendant l'Inquisition. On ne parle que de soi. et les inquisiteurs voyaient le mal partout parce qu'ils ne voulaient pas savoir qu'il était d'abord en eux. Ils jetaient leurs victimes dans les flammes, à la merci du diable dévorateur. Une projection, donc. Un roman de science-fiction reprend le thème de l'autodafé, de triste mémoire, lorsque les nazis arrivèrent au pouvoir en 1933. Comme le notera justement Freud avant de quitter Vienne pour Londres, grâce à l'aide de Marie Bonaparte, on commence par brûler les livres, puis ensuite on brûle les hommes. Il en suit quelque chose, toutes les sœurs de Freud périrent dans les camps de concentration. Ce roman, c'est Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, dont Truffaut tira un film. Pourquoi 451 ? C'est la température exacte à laquelle les livres brûlent. Dans cet univers aseptisé, les livres sont interdits. Les gens s'abêtissent devant des murs écrans où l'on projette des feuilletons stupides. Ça ne vous fait pas penser à notre époque un peu, chers auditeurs ? C'est un monde dépeuplé de toute référence à la culture, à la pensée, à la beauté, si bien qu'on s'y suicide à tour de bras. Le héros, Montag, qui est un pompier, par un renversement des valeurs, il n'éteint pas les feux, mais il brûle les livres. Si aujourd'hui les vrais lecteurs se font de plus en plus rares, là, dans ce monde-là, on les chasse, on les poursuit, on les tue même. Car ils sont un danger dans un monde totalitaire où la pensée doit rester la pensée officielle. Le livre commence par cette entrée en fanfare. Le plaisir d'incendier. Quel plaisir extraordinaire, c'était de voir les choses se faire dévorer, de les voir noircir et se transformer. Les poings serrés sur l'embout de cuivre, armés de ce piton géant qui crachait son venin de pétrole sur le monde, il, Montag, sentait le sang battre à ses tempes. Et ses mains devenaient celles d'un prodigieux chef d'orchestre, dirigeant toutes les symphonies, en feu majeur, pour abattre les guenilles et les ruines carbonisées de l'histoire. Son casque, symbolique numéroté 451 sur sa tête massive, une flamme orange dans les yeux à la pensée de ce qui allait se produire, il actionna l'igniteur d'une chicnaude et la maison décolla dans un feu vorace qui embrasa le ciel du soir de rouge, de jaune et de noir. Comme à la parade, il avança dans une nuée de lucioles. Il aurait surtout voulu, conformément à la vieille plaisanterie, plonger dans le brasier une boule de guimauve piquée au bout d'un bâton, tandis que les livres, comme autant de pigeons battant des ailes, mouraient sur le seuil et la pelouse de la maison. Tandis que les livres s'envolaient en tourbillons d'étincelles avant d'être emportés par un vent noir de suie. Montag changera. Et comme dans beaucoup de romans, c'est la rencontre avec l'amour d'une voisine qui le fera prendre conscience que tous ces livres qu'il brûle sont peut-être une source de bonheur, de libération. « Permettez que je vous pose une question, » dit alors Clarice McLellan. « Depuis combien de temps êtes-vous pompier ?»« Depuis l'âge de 20 ans. »« Ça fait 10 ans. »« Vous arrive-t-il de lire les livres que vous brûlez ?» Il éclata de rire. « Mais c'est contre la loi. »« Ah oui, c'est vrai. »« C'est un chouette boulot. » Le lundi brûle Millet, le mercredi Whitman, le vendredi Faulkner. Réduis-les en cendres et puis brûle les cendres, c'est notre slogan officiel. Ils firent quelques mètres et la jeune fille demanda : C'est vrai qu'autrefois les pompiers éteignaient le feu au lieu de l'allumer ? Non, les maisons ont toujours été ignifugées, croyez-moi. Bizarre, continua-t-elle. J'ai entendu dire qu'autrefois il était courant que les maisons prennent feu par accident et qu'on avait besoin de pompiers pour éteindre les incendies. Il s'esclaffa. Elle lui jeta un bref coup d'œil. « Pourquoi riez-vous ?»« Je ne sais pas. » Il se remit à rire et s'arrêta. « Pourquoi cette question ?» Le soleil est une boule de feu, il existe un feu portatif que l'on peut déplacer d'une pièce à une autre. C'est la petite flamme d'une bougie. Juste un petit souvenir. Enfant, parfois, les plombs sautaient. Le temps que papa les répare, il s'agissait vraiment de fils de fer assez épais qui l'entortillaient autour de deux plots. Maman allait chercher une boîte d'allumettes et soudain les ténèbres étaient poussées. Une petite aura jaune et vacillante changeait ce monde familier aux formes bien distinctes sous la puissante ampoule électrique. Un monde flottait autour de nous, plus vague, plus nuageux. La lumière plus faible enduisait tout d'un vernis de mystère et d'incertitude. Eh bien, chers auditeurs, j'espère que cette émission aura été comme un phénix, renaissant de ses flammes, et vous aura permis de rallumer des souvenirs anciens, des veillées devant la cheminée, des fêtes autour du feu de camp, car rien de ce qui a été ne s'éteint. Jusqu'au bout, la petite flamme brille. Merci à Géraldine pour la programmation musicale, à Simon, à la technique, merci pour les cloches et le feu de bois. Au mois prochain, avec une émission poétique consacrée à l'amour.